VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Eric Manila Kidza, la présentation de cette édition du jeudi 23 septembre 2021. Voici d'abord le sommaire. La troisième journée de l'Assemblée générale de l'ONU se poursuit au Palais de Verre à New York. Le Burundi lance un mandat d'arrêt international contre l'opposant Alexis Nduhije, accusé d'actes terroristes. En RDC, le journaliste Sosten Kambidi reste en détention dans l'enquête sur la mort des experts onusiens en 2017 au Kasaï. Les expulsions de milliers de migrants haïtiens font encore un tollé aux États-Unis. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. La troisième journée de la 76e session de l'Assemblée générale s'ouvre avec un programme chargé. Plusieurs chefs d'État africains s'expriment aujourd'hui à la tribune des Nations Unies, parmi eux l'Afrique du Sud et le Burkina Faso. Les précisions avec Tili Diko.
Cyril Ramaphosa a lancé un appel pressant pour plus de solidarité dans le monde pour faire face au Covid-19.
C'est un acte inacceptable envers l'humanité que plus de 82% des doses de vaccins dans le monde aient été acquises par des pays riches, alors que moins de 1% sont allés aux pays à faible revenu. Si nous ne posons pas ce problème de toute urgence, la pandémie durera beaucoup plus longtemps et de nouvelles formes du virus apparaîtront. L'Afrique du Sud réaffirme son appel à une distribution juste et équitable des vaccins.
João Lourenço, le président angolais, est revenu sur la situation politique au Mali et en Guinée en demandant la libération immédiate du président Alpha Condé. Roch Marc-Christian Caboret, du Burkina Faso, a voulu rassurer sur l'avancée du processus de vaccination dans son pays grâce au mécanisme COVAX. Il a aussi rappelé que d'autres fléaux accablent la planète comme la pauvreté, le changement climatique et le terrorisme.
Le terrorisme demeure aussi un grand défi auquel nous devons faire face au regard des nombreuses victimes à travers le monde. En Afrique et dans les régions du Sahel en particulier, les efforts de développement sont annihilés ces dernières années par les attaques terroristes récurrentes. Au Burkina Faso, la situation sécuritaire continue de se dégrader, surtout dans la zone des trois frontières Burkina Faso, Mali, Niger, mais aussi dans d'autres régions du pays. Pour assurer le retour de la sécurité dans toutes les régions menacées, le gouvernement a adopté des instruments de pilotage de la politique de sécurité nationale et continue à renforcer les compétences de ses forces de défense et de sécurité pour une efficacité opérationnelle satisfaisante.
Il y a également eu les discours préenregistrés du président gabonais Ali Bongo, de Mahamat Idriss Déby Itno à la tête du Tchad depuis le décès de son père, et Évariste Ndayishimiye, le président burundais. Demain, il y aura des messages vidéo du Bénin et de la Gambie et les discours en personne du président sénégalais Macky Sall et celui du Nigérian Mahamadou Bouhari. Dili Diko, VOA Afrique, New York.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a plaidé une nouvelle fois jeudi en faveur d'une meilleure prise de conscience de l'impact du changement climatique sur la sécurité dans le monde lors d'une session ministérielle du Conseil de sécurité qui reste divisée sur ce sujet. Aucune région n'est à l'abri. Les incendies de forêts, les inondations, les sécheresses et autres phénomènes météorologiques extrêmes affectent tous les continents, a rappelé le chef de l'ONU. Au Burkina Faso, 72 personnes ont été placées en garde à vue pour contrebande de carburant. Plusieurs stations-service et dépôts de carburant ont été placés sous scellé, a annoncé ce jeudi le procureur du Faso. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
L'affaire remonte à août 2019, quand la SELSE, l'autorité supérieure du contrôle d'État et de lutte contre la corruption, reçoit une dénonciation faisant cas de la commission sur le territoire burkinabé de fait de contrebande de carburant à grande échelle, a annoncé le procureur du Faso Haruna Yoda dans un communiqué. Le carburant en question proviendrait du Nigeria en passant par le Bénin pour être stocké à Kualou, localité située à l'est du Burkina Faso, a indiqué le procureur qui précise que selon cette source, les trafiquants se ravitailleraient à Kualou et les produits seraient transportés dans des fûts à l'intérieur de camions appelés 10 tonnes. Après des mois d'investigation, du 17 au 20 septembre dernier, le procureur a lancé une vaste opération qui a permis d'interpeller 72 personnes actuellement en garde à vue pour les besoins de l'enquête. L'opération a aussi permis de mettre sous scellé des stations-service et des dépôts de carburant. L'enquête ouverte porte sur des chefs de contrebande, de blanchiment de capitaux, de corruption relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et les financements du terrorisme. Selon le procureur Yoda, les auditions et interpellations se poursuivront afin de mettre fin à ces infractions qui non seulement paralysent l'économie nationale, selon ses mots, mais également sont constitutives des sources de financement du terrorisme. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Le Burundi a lancé un mandat d'arrêt international contre l'opposant Alexis Nduhije, président du MST qui vit en exil. Il est accusé de diriger un groupe qui a commis d'actes terroristes ces dernières années, selon le procureur général Sylvestre Nyandwi. Le point avec Nathalie Barge.
Les accusations portent sur des attaques qui ont fait des dizaines de morts et de nombreux blessés en 2020 et début 2021. Elles interviennent quelques jours après une série d'attaques à Bujumbura et Gitega qui ont fait au moins 6 morts et plus d'une centaine de blessés. Alexis Sindwinje, un ancien journaliste vivant en exil, est soupçonné depuis longtemps par le pouvoir d'être à la tête du groupe rebelle burundais Red Tabara. Apparu il y a 10 ans, ce groupe a revendiqué des attaques qui ont fait, selon lui, plus de 40 victimes. Red Tabara a aussi revendiqué une attaque récente sur l'aéroport de Bujumbura qui n'a fait ni dégâts ni victimes. Des mandats d'arrêt ont également été émis contre François Niamoya, secrétaire général du MSD, lui aussi en exil, et Marguerite Barankitse, fondatrice de l'association Maison Shalom. Dans un communiqué, le MSD a rejeté les accusations, disant ne pas être orienté vers la violence contre ses concitoyens.
L'ancien directeur de cabinet du président malien déchu Ibrahim Boubacar Keïta, Mahamadou Camara, a été placé jeudi sous mandat de dépôt dans l'enquête sur l'achat en 2014 de l'avion du chef de l'État. Après sa comparution devant le juge qu'il a placé sous mandat de dépôt, il est arrivé ce matin à la maison centrale d'arrêt de Bamako, selon une source pénitentiaire. Le journaliste congolais Sostene Kambidi, inculpé dans une enquête sur le meurtre de 2 experts de l'ONU en 2017 au Kasaï, dans le centre de la RDC, reste détenu à ce stade. Il sera de nouveau entendu demain vendredi. Le point avec Jean-Roger Dion.
Le parquet militaire congolais cherche à savoir d'où Sostene Kambidi tenait ses informations sur cette affaire et comment il s'était procuré une vidéo de l'exécution des experts onusiens. Après son arrestation, il a été d'abord interrogé au parquet en tant que témoin, puis mercredi en tant qu'inculpé. Mais rien n'est décidé de façon formelle. Il peut y avoir des éléments nouveaux qui vont amener à requalifier les faits, voire à les disqualifier, a précisé Maître Godefroy Kabongo Nzengu, l'avocat qui assiste Sostene Kambidi depuis mercredi. Pour le moment, il est poursuivi pour association de malfaiteurs, terrorisme et insurrection. Le journaliste est à ce jour maintenu en détention au parquet militaire de Kinshasa. Il pourrait par la suite être transféré dans une prison militaire de la capitale si les accusations sont avérées. Les experts des Nations Unies, la Suédoise Zaïda Catalan et l'Américain Michael Sharp avaient été tués le 12 mars 2017. Selon la version officielle à l'époque, ils ont été exécutés par des miliciens de la secte Kamuina Nsapu, alors en guerre contre l'armée régulière. Une trentaine de personnes sont accusées d'avoir participé à ce meurtre, mais le procès ouvert le 5 juin 2017 piétine. L'ONU a désigné un expert judiciaire pour accompagner la justice militaire congolaise.
Les relations complexes entre l'Algérie et le Maroc ont connu un nouvel accès de fièvre. L'Algérie a annoncé hier la fermeture de son espace aérien aux voisins marocains. La décision a été prise lors d'une réunion du Haut Conseil de sécurité présidée par le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune, également ministre de la Défense.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'émissaire américain en Haïti, Daniel Foote, a démissionné, dénonçant les expulsions inhumaines par les États-Unis de milliers de migrants haïtiens. Depuis dimanche, les services américains de l'immigration ont affrété 12 vols pour envoyer des milliers de migrants haïtiens à Port-au-Prince et au Cap-Haïtien, la deuxième ville du pays. Je ne m'associerai pas à la décision inhumaine, dit Daniel Foot dans sa lettre de démission adressée au secrétaire d'État Anthony Blinken. Nous remercions l'émissaire spécial Foot pour son engagement pour le pays et pour le peuple d'Haïti, a réagi le département d'État. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco signée Jean-Roger Bion.
South African Airways volait ce jeudi son premier avion depuis mars 2020, après avoir été cloué au sol par de grandes difficultés financières. Ce vol Johannesburg-Le Cap est le coup d'envoi à la reprise des vols intérieurs, tandis que les liaisons régionales vers Accra, Kinshasa, Lusaka, Harare et Maputo devraient débuter la semaine prochaine. South African Airways, qui n'avait enregistré aucun bénéfice depuis 2011, ne survivait que sous perfusion d'argent public. Sa situation s'est encore aggravée pendant la pandémie de COVID-19. Le Nigeria prévoit de produire 1,88 million de barils de pétrole brut par jour en 2022 et a basé son budget pour l'année prochaine sur la prévision d'un prix de 57 dollars le baril. Le Nigeria cherche à obtenir des prêts locaux et internationaux pour financer son budget 2021, exécuter des projets d'infrastructure, lutter contre le COVID-19 et l'insécurité croissante. La semaine dernière, le président Muhammadu Buhari a demandé l'approbation du Parlement pour près de 5 milliards de dollars d'emprunts supplémentaires. Ici aux États-Unis, le président de la Banque centrale a lancé mercredi un ferme avertissement au Congrès sur la nécessité de relever le plafond de la dette au risque de précipiter le pays dans une grave crise financière aux ramifications mondiales. Jerome Powell rejoint une cohorte de responsables actuels et anciens qui avertissent des conséquences économiques désastreuses en cas de défaut de paiement de la première puissance économique du monde.
Et sans transition, nous passons à votre page des sports, Yacouba Ouédraogo, bonsoir.
Bonsoir à tous. La Côte d'Ivoire est contrainte de recevoir le Malawi à Cotonou au Bénin le 11 octobre prochain lors de la quatrième journée des qualifications pour le Mondial 2022 de football. Faute de stade aux normes dans le pays, nous avons reçu votre demande de délocalisation de votre match Côte d'Ivoire-Malawi au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou, indique un courrier de la Fédération béninoise adressé à la Fédération ivoirienne mercredi. Nous marquons notre accord de principe, écrit Claude Paqui, le secrétaire général de la Fédération béninoise. La Côte d'Ivoire avait initialement proposé que le match se joue dans le nouveau stade de Yamoussoukro, qui se construit en vue de la CAN 2023 que le pays organise. Mais une mission de la CAF venue pour vérifier les installations n'a pas homologué l'enceinte, arguant que des travaux sont encore nécessaires pour accueillir un match international. On ne la verra plus sur les pistes. La Kenyane Marie Keitany, quadruple vainqueur du marathon de New York et triple vainqueur de celui de Londres, met fin à sa carrière à 39 ans après une blessure à la hanche qui l'a privée de compétition ces deux dernières années. « Je me suis beaucoup cherché et nous avons décidé avec mon manager italien Gianni De Madonna que c'était mieux pour moi d'arrêter », a déclaré Keitany. Elle est l'une des plus grandes marathoniennes de l'histoire et détient le record féminin sur la distance. Lors du marathon de Londres 2017 en 2h17 min 1 seconde, en 10 ans de carrière, Keitany s'est aussi emparé des records sur 10 000, 20 km, semi-marathon et 25 km. Romelu Lukaku estime que le monde du football doit combattre plus fortement le racisme et doute de l'efficacité du genou mis à terre par les joueurs au début des matchs de Premier League. Nous pouvons prendre des positions plus affirmées, a déclaré l'attaquant de Chelsea à CNN Sport. Certes, on met le genou à terre et tout le monde applaudit, mais parfois, après le match, il y a encore eu insultes, a ajouté l'international belge. Lukaku aimerait que les joueurs influents et les patrons des réseaux sociaux et d'autres acteurs se réunissent pour s'attaquer au racisme sur les réseaux. Le capitaine et 4 ou 5 joueurs à forte personnalité de chaque équipe devraient rencontrer des patrons d'Instagram, les gouvernements, la Fédération anglaise de football, l'Association des footballeurs professionnels pour discuter de cette situation, a précisé le Belge. Romelu Lukaku s'exprimait à l'occasion du lancement par son club d'un concours de photographie baptisé « Non à la haine, no to hate ». qui propose aux supporters du monde entier d'envoyer leurs photos pour montrer leur diversité.
C'était l'espoir de Yacouba Ouedraogo.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manerakidza de retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. Au Nord Kivu, dans l'Est de la République démocratique du Congo, la grève des infirmiers et autres agents médicaux qui a débuté en août dernier bloque le fonctionnement de plusieurs hôpitaux de la région. La prise en charge des patients hospitalisés pose problème. Les femmes enceintes ne sont plus prises en charge. Une situation qui met en danger la vie de la mère et de l'enfant. Pour plus de détails, suivez ce reportage de notre correspondant Zanem Neti Zaidi.
Au centre de santé CCLK, un établissement géré par l'État congolais, les patients attendent dehors tous les jours pour recevoir des soins. En raison de la grève déclenchée par les infirmiers, ils peuvent passer des journées entières à attendre d'être pris en charge. Mouamindaya, infirmier dans la zone de santé CCLK, l'un des hôpitaux touchés par la grève et où beaucoup d'agents sont à service minimum, explique les raisons de la grève qui jusqu'à présent a eu des conséquences sur le fonctionnement de la structure, mais aussi sur les mères enceintes.
Donc les infirmiers se sont révoltés pour plusieurs raisons, mais la première c'est que nous avons plusieurs années que nous subissons des problèmes de paiement. Vous allez constater que les médecins sont plus rémunérés, ils ont deux montants là énormes, et quand vous voyez l'infirmier, il est vraiment négligé, maltraité à tous les niveaux. Les malades en souffrent, puisque au moins le mois d'août, j'ai connu beaucoup d'accouchements qui se sont passés ici dehors, derrière l'enclos. Il y a aussi les mamans qui viennent pour la vaccination, dont les enfants ne sont pas vaccinés parce que la grève continue. Il y a les femmes enceintes qui devaient être assistées par nous, mais qui ne sont pas assistées parce que nous ne pouvons rien faire à notre niveau.
Ces infirmiers disent donc qu'ils ne reprendront le travail que lorsqu'il y aura une augmentation des salaires et les paiements de quelques mois d'arriéré. Corneille Badora, infirmier dans la même zone de santé, a appelé les gouvernements congolais à attendre leur déclaration et à agir rapidement.
L'appel que je lance au gouvernement, c'est de prendre en compte les revendications des infirmiers. Pensez aussi à eux, comme ils ont fait pour les médecins, qu'on paye les infirmiers. Voilà, nous sommes prêts à lever notre mouvement de grève dès lors que nos revendications seront prises en compte par le gouvernement.
Les femmes enceintes sont les plus touchées par cette grève. Madame Faïda, enceinte de 6 mois, est venue passer ses examens. Mais elle n'a pas été prise en charge comme elle le souhaitait. Elle lance un appel aux autorités.
Quand nous arrivons ici, les infirmiers nous disent qu'ils n'ont pas le temps de nous examiner. Je demande aux autorités de les payer pour que nous puissions continuer à être examinés, nous, avec nos grossesses.
Rappelons que cette grève des infirmiers a été lancée le 12 août 2021 sur une bonne partie du territoire national. Certains patients commencent déjà à quitter les structures gérées par l'État pour se diriger vers les centres de santé privés où ils souhaitent avoir une meilleure prise en charge. Zanem Netizaidi pour VOA Afrique, Goma.
Restez branchés sur VOA Afrique à Goma sur 96.2 FM.
L'État camerounais a subi un préjudice financier de plus de 16 milliards de francs CFA pour des affaires de corruption et infractions assimilées. C'est ce que relève le rapport 2020 sur l'état des lieux de la corruption rendu public ce jeudi à Yaoundé. Le rapport indique aussi que c'est le secteur des transports routiers qui fait le plus l'objet de dénonciations des faits de corruption au Cameroun. À Yaoundé, suivons cet élément de notre correspondant Emmanuel Jultap.
La corruption ne recule pas au Cameroun. 46 gestionnaires ont été déclarés coupables dans les affaires qui les mettaient en cause devant le tribunal criminel spécial qui statue pour des faits de détournement de fonds à partir de 50 millions de francs CFA. Écoutons Dieudonné Massigams, président de la CONAC.
De la lecture du rapport sur l'état de la lutte contre la corruption au Cameroun en 2020,
Il ressort qu'en dépit d'un contexte social particulièrement difficile, les atteintes à la fortune publique et à la gouvernance n'ont pas connu de ralentissement dans notre pays. Un indicateur pertinent de cette réalité est le nombre de dénonciations reçues à la CONAC, à savoir 16 067 au total. Ainsi que nous le rappelons chaque année, ces atteintes constituent un frein au développement de notre pays. En effet, le préjudice financier subi par l'État du Cameroun en 2020 est évalué au total de 17 611 274 184 francs CFA.
La corruption étend aussi ses tentacules dans le secteur routier. Les usagers de ces secteurs ont le plus dénoncé l'an dernier, sur la ligne verte de la CONAC, le 15-17, des faits de corruption au Cameroun. Alexandre est chauffeur de taxi à Yaoundé.
À tous les postes, on trouve les contrôles. On n'arrive pas à travailler. Hein? La corruption au Cameroun a débordé les lignes.
Des acteurs de la société civile, mais aussi des hommes politiques, présents à la cérémonie de présentation du rapport sur l'état des lieux de la corruption, s'inquiètent de l'ampleur de ce fléau. Le Cameroun est parmi les 30 pays les plus corrompus dans le monde, selon Transparency International. Le député Cabral Libi, du PCRN.
La plupart des gens que l'opération Épervier a attrapés, ce ne sont pas des voleurs à la tire. Ce sont des gens qui ont volé des milliards de francs, alors que déjà, avant de les voler, ils étaient déjà réputés suffisamment aisés. Donc c'est une gangrène qui est systémique.
Marie-Jeanne Abega, de la société civile, a un souhait.
Pourquoi est-ce que la CONAC n'a pas les démembrements sur l'étendue du territoire? Je souhaite que la CONAC obéisse à la décentralisation, qu'elle soit aussi décentralisée pour une action plus prompte.
Le président de la Commission nationale anticorruption plaide désormais pour l'adoption d'une loi anticorruption au Cameroun et la mise en place d'institutions de gestion des avoirs volés. Emmanuel Junta pour VOA Afrique, Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Nouveau regain de tension entre l'Algérie et le Maroc avec l'annonce de la fermeture de l'espace aérien algérien au royaume chérifien. Ces deux poids lourds du Maghreb entretiennent depuis des décennies des relations difficiles, notamment en raison de l'épineux dossier du Sahara occidental. Cette décision de fermeture de l'espace aérien par l'Algérie n'est pas anodine pour le journaliste et auteur de plusieurs ouvrages sur le Maroc, Jean-Pierre Tucoy.
C'est une décision importante dans la mesure où elle s'inscrit dans un agenda déjà chargé. Si vous voulez, c'est une pierre de plus sur cette route chaotique des relations entre les deux pays. Donc c'est pas très bon signe, d'autant que d'un côté comme de l'autre, on n'a pas l'air de vouloir rechercher un apaisement. Donc effectivement, c'est pas une bonne chose et on peut craindre que de nouveaux éléments interviennent qui conduisent, je dis pas un conflit armé, mais en tous les cas un regain de tension entre les deux pays. Ça me paraît pas du tout exclu.
Vous avez suivi les relations entre les pays depuis longtemps. Mmh. Pour vous, quels sont l'historique un peu de ces difficultés?
Les relations sont mauvaises, on peut dire, globalement, depuis la création de l'Algérie indépendante. Le problème, je crois, qu'il y a derrière, c'est que ce sont deux pays qui ont vocation à être des leaders régionaux. Ils sont de taille comparable en termes de population, en termes de richesse, de revenus. Ils ont des régimes qui sont deux régimes autoritaires, même si l'un est une monarchie de droit divin et l'autre est un pays laïque, enfin qui se prétendait laïque pendant très longtemps et qui a longtemps été, d'ailleurs du temps de la guerre froide, qui a longtemps été aligné, était proche en tous les cas de l'Union soviétique, tout en essayant de mener d'être un non-aligné. Et c'est donc deux pays, deux régimes qui sont semblables. Il n'y en a pas un qui est beaucoup plus puissant que l'autre et donc ils sont en concurrence. Ils sont en concurrence en Afrique et en Afrique du Nord. Donc voilà, tant qu'il n'y en a pas un qui aura écrasé l'autre, je ne vois pas très bien comment tout ça va s'apaiser. C'est une concurrence, comme il y a pu exister une concurrence entre la France et l'Allemagne pendant très longtemps. Voilà, tout les oppose et, vous voyez, ça se cristallise évidemment sur le Sahara occidental. Si l'Algérie n'était pas derrière le Front Polisario, évidemment que le dossier aurait été enterré depuis longtemps. Mais pour l'Algérie, c'est un dossier lourd. Ils ne feront jamais le cadeau de donner le Sahara occidental, de lâcher le Polisario et de faire que le Maroc puisse absorber le Sahara occidental. Jamais, quel que soit le régime en place en Algérie, que ce soit des militaires, que ce soit des civils, je crois que là, c'est une constance dans la politique algérienne. Ils sont tout le temps derrière le Polisario pour mettre des bâtons dans les roues du Maroc et éviter que le Maroc ne s'empare de l'ancienne colonie espagnole.
L'ancien journaliste du quotidien français Le Monde, Jean-Pierre Tucois, y répondait aux questions de Claire Morin-Gibourg. L'envoyé spécial du département d'État américain en Haïti, Daniel Foote, a démissionné ce jeudi, 2 mois après sa nomination, dénonçant l'expulsion par l'administration Biden de migrants haïtiens à la frontière américano-mexicaine. Les législateurs américains, démocrates et républicains ont critiqué le traitement infligé à des milliers de migrants haïtiens qui tentaient mercredi de traverser la frontière. Ces critiques interviennent pendant que les États-Unis augmentent les vols de rapatriement hors de l'État du Texas. Les détails avec notre correspondante au Congrès, Catherine Gibson, Yacouba Ouedraogo, pour le récit.
La traversée entre les États-Unis et le Mexique à Del Rio, au Texas, a été verrouée mercredi, alors que des milliers de migrants haïtiens s'installent sous le pont entre les deux pays, attendant de traverser pour demander l'asile. Après des images choquantes d'agents de la patrouille frontalière à cheval brutalisant des migrants, le secrétaire à la sécurité intérieure a promis une enquête rapide. Alejandro Mayorkas, secrétaire à la sécurité intérieure.
Les images provenant de Del Rio au Texas au cours des derniers jours ont correctement et nécessairement rencontré la fureur de notre nation car elles ne reflètent pas qui nous sommes en tant que pays ni ce qu'est le service de la douane et de la protection des frontières des États-Unis.
La Maison-Blanche s'est fait l'écho de ses préoccupations tout en soulignant que la politique américaine d'immigration doit toujours être suivi à la frontière. Jen Psaki, attachée de presse de la Maison-Blanche.
Cela a été un problème incroyablement déchirant. Nous avons regardé les photos d'Haïtiens rassemblés sous un pont, dont beaucoup avec des familles, et l'horrible vidéo des agents de la sécurité intérieure à cheval utilisant des mesures brutales et inappropriées contre des innocents. Je pense qu'il est important d'aborder cela et d'aborder séparément nos politiques d'immigration et de comprendre que les gens font l'amalgame.
Mais les républicains du Congrès ont déclaré que les politiques d'immigration de l'administration Biden ont directement causé cette crise. Mitch McConnell, chef de la minorité républicaine au Sénat.
Ce cauchemar est le résultat direct des politiques de gauche et des messages de gauche poussés par l'administration Biden. Ils disent que leur approche de l'immigration est la voie de la compassion, celle qui reflète l'âme de l'Amérique. Ils ont tort.
La réponse de la patrouille frontalière a aussi suscité de vives critiques de la part des démocrates qui ont constaté les raisons pour lesquelles les Haïtiens sont expulsés et ont appelé à mettre fin à ces déportations sommaires initiées par l'administration Trump qui invoquait la pandémie de COVID-19. Sheila Lee, députée démocrate.
Dans quelle mesure la race a-t-elle joué un rôle dans ces actions? Est-ce que vous vous penchez aussi là-dessus? Et aussi, avez-vous pensé à cette relique Trump de l'article 42? N'est pas l'éliminer, mais la suspendre au fait que les Haïtiens ont été qualifiés comme ne représentant aucune menace pour la sécurité nationale.
Alejandro Mayorkas, secrétaire à la sécurité intérieure.
À ce qui concerne l'article 42 et son application, cela relève de l'autorité des centres de contrôle des maladies. Ce n'est pas une question de politique d'immigration. C'est une question de politique de santé publique motivée par la situation de COVID-19 et où se situe la trajectoire de cette pandémie.
Des milliers de migrants haïtiens sont libérés aux États-Unis s'ils promettent de se présenter à un bureau d'immigration dans les 60 jours. D'autres sont rapatriés par avion vers Haïti. Les critères pour déterminer le sort de ceux qui restent ou repartent ne sont pas très clairs.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et de la production qui a permis la réalisation de cette édition. Eric Manirakis a été à la présentation. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de